bien, nous allons commencer par la prière et puis nous allons parler du culte de la famille. La famille et le culte. Prions le Seigneur. Notre Père, nous te prions que tu parles à nos cœurs. Que tu nous aides, Seigneur, dans nos vies d'apprendre. Et Seigneur, que tu en sois glorifié. Nous prions, Seigneur, encore pour les familles. Les familles qui sont dans nos églises, qui ont besoin, Seigneur, d'être unis en toi, de progresser, d'avancer. Je veux que tu aies des parents, savoir enseigner leurs enfants et d'être les modèles qui donnent ce qu'il faut pour que les enfants grandissent en marchant avec toi. Merci, notre Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Je dois parler de la famille et le culte. Donc, je réfléchissais pas mal là-dessus depuis que j'étais informé sur le sujet pour lequel j'allais être censé traiter. Et il y a plusieurs idées qui m'est venu à l'esprit que j'aimerais partager avec vous ce matin. Moi-même, j'ai grandi dans une famille chrétienne qui allait à l'église. Mais mon père, on peut dire, je crois qu'il est croyant, oui, on allait à l'église le dimanche, mais il n'était pas forcément celui qui menait la famille par rapport au Seigneur. Je me souviens, grandissant, des fois ma mère voulait que mon père fasse un culte de famille. Et je pense qu'on l'a fait quelques fois, mais c'était exceptionnellement rare. Et puis, mon père aussi travaillait dans l'informatique et il avait des horaires impossibles. Donc, mon père réparait les ordinateurs. Les ordinateurs à l'époque étaient des gros engins immenses. Ce n'était pas quelque chose que vous mettez dans la poche. Et donc, et c'est des machines qui coûtaient des millions de dollars, sur lesquelles ils savaient que ça marche 24 sur 24. Donc, à n'importe quel moment de la journée, il partait au travail. Et on l'appelait 11 le soir, ça ne marche pas. Il partait. Il est revenu 5 heures du matin, et puis il se met à dormir, et puis on l'appelle, en quoi ça ne marche pas, hein? Il va partir au travail, et puis progressant dans son travail, à un moment donné, il avait une équipe qui lui dirigeait, donc, mais quand même, on l'appelait à lui, donc c'est vrai que lui, c'est débrouillé que ça soit réparé, et tout ça, mais. Je ne peux pas dire que j'avais un modèle de culte de famille en grandissant. Donc, quand Julie et moi nous sommes mariés, entre les deux derniers pour le Seigneur, nous, on voulait fonder notre foyer sur la parole, cette fondation, et donc, on se mariage, et on a eu beaucoup de choses à prendre. Et puis, Rebecca est née. Et je me souviens, Julie, tout naturellement, elle donnait à manger à Rebecca, tout bébé, un petit bout de chou là, qui pesait 2 kilos à l'instant. Et puis elle priait avec elle avant de lui donner à manger. Et moi, je vous, enfin, pourquoi pas, mais elle ne fait pas rien, la pauvre. Mais très vite, j'ai commencé à le comprendre. Ayant des enfants, on comprend, peut-être l'éducation, d'apprendre à élever les enfants. Comme quelqu'un a dit, quand vous avez un enfant, quand on achète un appareil, on vous donne un mot d'emploi. On vous dit que bon, ça marche, ce qu'il faut faire, il faut l'entretenir. Et on vous donne un bébé, il n'y a pas de mot d'emploi. Et enfin, quand on dit vos parents, mais très vite, Julie avait déjà commencé à prier avec la bête, c'est petit. Et puis, je ne sais pas d'être quel âge on a commencé, mais quand même, elle était quand même petite. On commençait à faire, on raconte une histoire de la Bible. Donc, chaque soir, avant qu'on a couché, maintenant, elle ne parlait pas, elle faisait des bruits, mais elle avait, enfin, ça pour moi, je ne sais pas exactement. On commence à lui raconter des histoires de la Bible. Et puis, bien sûr, très court, et on priait avec elle. Moi, c'est pour toute la famille. Et puis, en progressant, les histoires devenaient un peu plus longues et elle commençait à comprendre. Et puis, Nathanaël est arrivé. Et puis, on l'a aidé, j'ai pris la fille à ce moment-là. Et donc, tous les soirs, après manger, on leur racontait des histoires de la Bible. On commence avec des petits livres, là, vous avez des images pour raconter des histoires. Et puis, on a eu un livre un peu plus. C'était en anglais, c'était des images, donc on prenait des histoires, des images. Et voilà, ici, c'est David, il va terrasser le Goliath. Tu sais, si on, quand on croit en Dieu, il n'y a pas de problème trop grand. On essaie de les faire comprendre. Hein. Et puis, l'autre jour, Dieu m'a rappelé, à un bon moment donné, je ne sais pas quel âge avait Nathanaël, 4-5 ans, je ne sais pas. Un soir, des fois on change un peu. Je dis, ce soir, Nathanaël va nous raconter l'histoire de Daniel dans le fosse aux lions. Lui, il va nous raconter l'histoire. Vous savez qu'il est bien, il connaissait. Et donc, il commence. Il y avait trois présidents. Il parle. Et un d'eux était Daniel. Et deux autres étaient jaloux. Ah, en fait, il a raison. Il nous raconte des détails que nous, je vois Daniel chapitre 6, ça dit pas de président, ça dit chef, mais oui. Mais ce que je veux dire, tu veux qu'il s'attrape des détails que même nous-mêmes, on ne tient pas dessus. Et puis, c'est vrai qu'on ne s'arrête pas forcément qu'il y ait trois présidents. Hein. Mais on lui a raconté l'histoire en parlant de trois présidents. Mais, mais c'est devenu vraiment une. Régulièrement, tous les soirs, après manger, avant de mettre les enfants au lit, on avait l'histoire, sans pas qu'on manquait, s'il y avait tout biblique le soir et on n'avait pas le temps, et on rentrait, ils étaient endormis. On avait des prières aussi. Donc, il y avait au moins cinq fois par semaine, régulièrement, on a vu notre culte famille. Et puis, quand ils sont arrivés à l'âge de savoir lire, un moment donné, déjà, de le raconter, on lisait un texte biblique, et puis, on commence à lire ensemble en famille. Moi, au départ, c'était, on allait lire un verset chacun, et puis, deux versets chacun. C'est devenu la rituel chez nous, on peut dire, une bannerie, ça peut dire. Chaque fois, on prenait un chapitre à la Bible, et à tout le rôle, chacun lisait deux versets. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Nathanaël, qui avait du mal à apprendre à lire, chaque fois qu'on arrivait sur le passage de la généalogie, lui, il trouvait sur les noms qui n'ont fini ses couches. Il le sentait chaque fois. Mais moi, je pensais toujours le premier, et puis après, on tournait en principe. Et donc, Nathanaël voulait toujours être à ma gauche, parce que comme ça, il était le dernier à suivre. Mais ça n'a raté jamais, parce que s'il avait non compliqué dans le texte, c'était lui qui devait le lire. Mais quand même, il le faisait. Et c'était vraiment, Dieu, on a fait ça tout le long, et même on l'a fait encore, Dieu et moi, on a fait ça, on l'a fait pas tous les soirs, on rate, sur les activités des fois, on rate, mais quand même, c'est quelque chose qui est, on peut entrer dans notre famille. C'est juste que je remarque, nos enfants, en apprenant plus petit, je ne me souviens jamais, peut-être que je vais me sauter, j'ai oublié parce que je ne m'en vais jamais, mais je ne me souviens jamais d'une seule fois qu'ils se sont plaints que, voilà, il fallait faire l'histoire de la Bible. Oui, l'histoire de la Bible, même si on lit les chapitres. On va voir l'histoire de la Bible. Même adolescent, vous vous souvenez une fois que vraiment c'était, des fois c'était on va faire vite pour finir avec parce qu'on va faire ceci, cela, mais un devoir à faire, ou autre chose. Mais c'était jamais, j'ai même plus envie. Je ne me souviens pas. Mais c'était vraiment, et c'est quelque chose que je trouve que c'est important d'établir dans sa famille tout petit et puis de continuer. Oui, des fois, c'est une ratée, s'il avait une raison, c'est pas un droit que si on rentre minuit le soir et tout le monde est KO, des fois, on ne fait pas. Mais on l'a fait pendant des années, toute l'enfance de nos enfants, et comme je dis, moi, on continue, des fois on rate aussi. Mais quand même, en règle générale, on cherche à le faire. Et c'est important, mais ce que j'aimerais faire, c'est regarder plusieurs passages bibliques qui me montrent l'importance du culte, et puis que ce soit dans le cadre de la famille, qu'il y ait un culte de famille. Et puis, j'aimerais comprendre l'exemple biblique de l'homme qui a amené son fils à adorer l'Éternel. J'ai cherché un exemple biblique et j'en ai trouvé un que je trouve riche en enseignement. Donc d'abord, voilà, Hébreux chapitre 12. Versets 28 et verset 29. Hébreux chapitre 12, verset 28 et verset 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrant notre reconnaissance, rendons à Dieu un culte qui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Nous voyons ici les questions de rendre un culte à Dieu par notre reconnaissance. Si nous voulons enseigner nos enfants d'être reconnaissants envers le Seigneur, il faut que nous-mêmes nous soyons reconnaissants envers le Seigneur. Et comment est-ce qu'on nous montre notre reconnaissance envers le Seigneur? C'est en adorant le Seigneur. C'est en mettant le Seigneur en première place. C'est en passant le temps dans sa parole ensemble, en tant que famille. Jean chapitre 4, il y a cette histoire de la femme samaritaine. Cette femme samaritaine qui, pour elle, elle dit, est-ce qu'il faut adorer Dieu sur les montagnes comme nos pères ou à Jérusalem comme les Juifs insistent. Verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas ni la forme, ni le méthode, on peut dire. Chez nous, on avait deux versets, chacun faisait le tour. Peut-être chez vous, vous faites autrement, vous trouvez ce qui va pour votre famille. Mais que ce qui compte, c'est d'adorer Dieu en esprit, en vérité. Et nous sommes appelés à adorer Dieu. Nous avons été créés pour adorer Dieu. Dieu nous a fait pour sa gloire. Et si nous ne la glorifions pas, nous ratons le but de notre vie. Nous ratons le but de notre famille. Est-ce que vous voulez que votre famille glorifie Dieu? Est-ce que c'est votre désir le plus profond? Si vous voulez, il faut que votre famille développe de vouloir adorer Dieu en esprit et en vérité. Romains chapitre 12, verset très souvent cité, mais qui aussi nous parle de culte raisonnable. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir votre famille comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. J'ai fait une petite modification, mais je pense que c'est à propos. Oui, nous devrions offrir à Dieu notre famille. C'est notre famille que son but, c'est d'adorer et adorer Dieu seul, l'Éternel, celui qui les a créés. Maintenant, pourquoi le culte de famille? Voyons Deutéronome, certains de ces versets, vous savez, je suis à la fin de toutes ces études bibliques, et on parle de la famille, et certains qui m'ont précédé dans les études, ils se sont servis certains de certains versets. Donc, excusez-moi si je vous rappelle certains versets que peut-être Vincent ou Sam ou Olivier ou David se sont servis de certains des mêmes versets, mais je les vois en cadre de culte de famille. Deutéronome chapitre 4, verset 9. Deutéronome chapitre 4, verset 9. Salomon prend garde à toi. Éveille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Donc, combien souvent est-ce qu'il faut veiller sur son âme? Tous les jours. De peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur, enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Souviens-toi du jour où tu te présentes devant l'Éternel, ton Dieu, à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple, je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Donc, qu'est-ce que Dieu désire ici? C'est qu'on n'oublie pas ce que Dieu a fait. Sa parole, c'est ce que Dieu a fait. Mais dans votre famille, maintenant, on lisait la parole et après, on avait un moment où chacun partager ce qu'eux, ils ont trouvé dans le passage, un peu comme ce qu'on fait ici le matin, quasiment la même idée, et puis on a un moment de prière. Mais est-ce que dans votre famille, vous avez les réponses du Seigneur? Est-ce que Dieu a répondu à vous avez eu un besoin de famille, et que Dieu a pourvu? Est-ce qu'en famille, après, vous avez remercié le Seigneur pour avoir répondu à un besoin? Hein? Je vais faire un témoignage.
Oui, par exemple, c'est un étudiant repris. Paul avait perdu sa femme, ma fille avait perdu sa femme dans le parc. Mmh. Et donc, chaque année, je ne sais plus où elle est, on l'a pris, on l'a volé, etc. Ah oui, c'était ma fille. En fait, il avait posé son prévisage et il avait dit, tu vois. Alors, on a cherché dans le parc, mais on n'a pas trouvé. Donc, on est rentré à la maison, on a prié. On s'est dit, on a toujours la demande à Seigneur, tu vas avoir problème. Et Mathieu, il allait voir, etc. Il nous a dit, donc, on a prié. Et puis, peu de temps après, je ne sais plus comment, on s'est dit, on est venu au milieu à descendre. Donc, on a demandé dans le parc, tout le monde était, ceux qui nous connaissaient étaient très désolés parce que ce sont très rares les remontants. Mais on a pu prier avec les garçons, avec les jeunes.
Ouais. Donc, le Seigneur, quand il répond à une prière, ou qu'il répond à un besoin, en famille, de faire remarquer à nos enfants que Dieu a répondu à la prière et de remercier Dieu ensemble pour la réponse. Et c'est important que nous les rappelons ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait, ce qu'il fait dans la parole, ce qu'il fait dans nos vies. Et puis aussi de les apprendre, comme c'est dit dans le passage, je veux leur faire entendre mes paroles afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps et qu'ils vivront sur la terre afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Mais d'apprendre la parole, c'est ce que ça dit. Et donc, nous avons besoin de passer le temps en famille avec nos enfants pour les. Si nous voulons les faire progresser, nous avons besoin de. Le dimanche matin n'est pas suffisant. Si vous n'avez que les dimanches matins, c'est vraiment. C'est bien. Mais c'est insuffisant. Et il ne faut pas que vous comptez que sur l'enseignement de l'école du dimanche d'amener vos enfants à. C'est bien, ils vont l'enseigner, mais ce n'est pas que vous êtes appelés à le faire. Deutéronome chapitre 11. Deutéronome chapitre 11 et verset 19. Deutéronome chapitre 11, verset 19, vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc ici dans ce passage, il est question des paroles que Dieu avait faites, de rappeler ce que Dieu avait fait, et on voit que d'en parler continuellement. Mais dans sa maison, quand il se couche, quand on se lève, d'avoir des moments, mais on a besoin d'enseigner, de garder ces choses devant nos enfants, devant leur vie, pour qu'eux-mêmes, ils apprennent. Psaume 78. Psaume 78. Et verset 5. Psaume 78, verset 5. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit comme de la génération future, des enfants qui naîtront et que, devenus grands, ils parlent à leurs enfants. Je voudrais souligner une chose ici, importante. Ça parle de. Il a ordonné à nos pères d'enseigner les enfants. Ça n'empêche pas que la mère enseigne aussi. Mais le rôle du chef de famille doit être le père. Le chef spirituel de la famille doit être le père. C'est lui qui a un rôle essentiel. Ça n'empêche pas que la maman aussi parle aux enfants du Seigneur. C'est pas ça le truc. Mais il y a un autre père. Et on retrouve cette même idée en Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, dans le Nouveau Testament, Éphésiens, chapitre 6. Éphésiens, au chapitre 6, et verset 4. Donc, dans le passage, il y a question de femmes soumises à leur mari, le mari doit aimer leur femme, les enfants doivent obéir à leurs parents. Et verset 4. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, encore, je souligne Dieu, il souligne le rôle du papa, du père en famille. C'est important parce que un garçon qui grandit et tout ce qu'il a reçu du Seigneur, c'est de sa mère. Quand il va arriver au cri, on va dire, de devenir un homme, s'il pense que les choses qui sont de Dieu, ça n'a à faire qu'avec les femmes. Qu'est-ce qui arrive? Un jeune homme qui veut affirmer sa masculinité, si de croire en Dieu et aller à l'église et prier et lire la Bible, ce n'est que quelque chose que les femmes font, lui, il n'est plus besoin. C'est important pour les pères dans le modèle et qui met la barre. Bien sûr, la maman aussi participe, mais Dieu souligne le rôle du père. Voyons 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5 et verset 8. 1 Timothée chapitre 5 et verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il est renié la foi, il en est pire qu'un infidèle. Maintenant, bien sûr, dans le passage, il est question de s'occuper dans tous les domaines matériels et tout ça, mais spirituellement, il ne faut pas qu'on néglige de s'occuper des besoins spirituels de notre famille en tant que père de famille. Et c'est une chose qui est essentielle si nous voulons que nos enfants grandissent et qu'ils soient instruits, qu'ils aient compris. Il faut savoir que les enfants, ils comprennent très facilement les choses. Personne ne parle de l'éducation, d'amener nos enfants au Seigneur, de parler du Seigneur. Mais nos enfants, ils comprennent des choses incroyables. On peut parler de, à l'école, on n'attend pas qu'ils soient adolescents pour leur parler des singes qui sont censés être notre ancêtre. J'y crois pas du tout. Mais ça vaut la peine de prier. En Genèse, Dieu a créé. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Dieu a créé? C'est que Dieu a créé, il a parlé, ça s'est fait. Et Dieu, Dieu est si grand, il est puissant, il est capable de faire cela. Et puis, quand ils arrivent à l'âge où on commence à parler de M. Darwin et ses bêtises, qu'on dit, écoute, je ne sais pas pourquoi, mais je suis ton père, je ne suis pas un singe. Et mon père n'était pas un singe, et mon grand-père n'était pas un singe, et jusqu'à sûr, jusqu'à nos premiers parents, ce n'était pas les singes. Vous ils ont aussi donné des réponses. Quand vous faites votre culte de famille, vous parlez de la parole, vous enseignez la parole, vous amenez vos enfants à adorer Dieu, et qu'eux-mêmes, ils découvrent les réponses. Vos enfants vont arriver à un moment où à la pression, on peut dire, à l'école, l'influence, surtout quand les enfants arrivent à l'âge pré-ado, on peut dire, l'influence des copains devient très fort. Et vous avez besoin que votre famille soit unie dans le Seigneur pour que vos enfants ils soient fondés et que quand il y a toutes les pressions des copains qui veulent les emmener pas forcément dans la bonne direction, qu'il y a ce fondement que vous avez patiemment passé le temps depuis le plus jeune âge pour former. Et quand nous lisons Proverbe chapitre 22, Proverbe chapitre 22, et verset 6, instruit l'enfant sur la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. On a besoin d'enseigner nos enfants maintenant. Je connais des cas, des parents chrétiens qui pensent bien avoir élevé les enfants, et les enfants sont arrivés à l'âge adulte, et puis il semble qu'ils ont abandonné, puis tout abandonné. Nous ne sommes pas. Chacun devient responsable pour lui-même. Mais il faut savoir qu'ici, nous devons instruire nos enfants, et ce que nous les instruisons en tant qu'enfants, ça va les marquer quand ils seront adultes. Et c'est vraiment notre désir, doit être, de les instruire, les former, de leur montrer le chemin. Et quand ils seront vieux, ils ne s'en détourneront pas. Il y aura toujours les restes. Et il y aura toujours des choses qui restent. Donc là, on a vu rapidement quelques passages bibliques qui nous parlent de cet aspect de l'importance d'adorer Dieu en famille, et puis en adorant Dieu en famille, de les instruire, de répondre à leurs questions, de bien sûr d'adapter ce que vous faites à l'âge de l'enfant. Quand vos enfants sont petits, on raconte les histoires. Mais quand ils sont adolescents, on peut avoir des discussions. Je suis sûr que Vincent, avec son fils aîné, Nathan, là, je suis sûr que des fois, il y a des discussions intéressantes. Avec des choses. Mais si simplement il se suffit de raconter l'histoire de David et Goliath, il va dire, papa, je connais ça par cœur. Et sûrement, il est capable de la raconter aussi bien que aucun de nous. C'est chacun de nous. Et donc, avec l'âge de l'enfant, il faut aussi adapter la façon qu'on le fait, trouver des idées, trouver des choses qui vont les motiver, les encourager. Quand nos enfants étaient petits, avant Noël, moi j'ai eu une idée. Luc chapitre 2, verset 10 à 10, si tu apprends par cœur chacun des versets, je te donnerai 50 centimes de francs. Et après, une fois que tu as tout appris, si tu veux réciter début à la fin, tu donnes encore 50 centimes de... C'était combien? Ça, d'accord. D'accord, un franc, voilà. D'accord, suivez-moi. Suivez-moi, je... Ça, c'est bien. Un franc par verset. Mais tous les deux, ils l'ont pris, ils l'ont fait, et c'était un bon investissement. Je ne le regrette pas. Mais au lieu de savoir lui donner des sous, je lui dis, écoute, tu prends par cœur les versets, en façon de enfin, c'est pas compliqué, mais c'est une façon de motiver. Maintenant, peut-être que cette idée ne vous plaît pas, vous trouvez non, ça, je ne sais pas. Mais vous faites un concours, l'enfant qui arrive à prendre le mieux aura-t-il été récompensé ou quelque chose, je ne sais pas. Mais les enfants sont stimulés par ces choses. Et c'est, ce n'est pas forcément. Il y a plein de choses que vous pouvez trouver qui va aider vos enfants à être motivés, être encouragés et de les amener plus loin. Maintenant, est-ce que c'est clair ce que tu as vu de cela? C'est clair? Voyons Genèse chapitre 22. Je vous ai censé l'avoir lu aujourd'hui. J'aimerais vous parler d'un homme qui a amené son fils à adorer l'Éternel. Sérieux. Grave. Je ne vais pas vous lire tous les versets, vous vous êtes censé vous avoir lu là, tout à l'heure. Abraham, un beau jour, Dieu, il dit à Abraham, je veux que tu prennes ton fils, que tu vas où je vais te montrer, et tu veux l'offrir en holocauste. La parole de Dieu. Abraham a pris au sérieux la parole de Dieu. Et ce n'était pas une question de blague, il est croyé à la lettre. Vous avez remarqué? Je ne sais pas si Dieu m'aurait dit d'amener un de mes enfants là-bas et le tuer. Tout à l'heure, en discussion, en parlant de passage, on se disait, Abraham, on a vu plus tôt qu'il manquait la foi, mais sa foi est grandie. Et il était sûr que Dieu ne l'induirait pas dans l'erreur. Quand Dieu parle, il faut le prendre au sérieux. Est-ce que nous prenons au sérieux la parole de Dieu? Abraham l'a fait. Abraham, il était prêt à obéir. Dieu lui parle et il veut aussi instruire ses enfants à le faire, son fils à le faire. Il voulait que Dieu touche le cœur de son fils pour que son fils marche dans le même chemin que lui. De faire un culte de famille n'est pas forcément quelque chose de facile à faire régulièrement et tout ce que vous pouvez faire. Il faut être prêt à faire. Mais c'est important. Je vous pose une question. Est-ce que c'est plus important pour vos enfants d'étudier les maths ou d'étudier la parole? Ça n'a rien de mauvais d'étudier les maths. Est-ce que c'est plus important que vos enfants réussissent dans une équipe de foot pour apprendre la parole? Est-ce que c'est plus important que vos enfants qu'ils, on peut dire, qu'ils soient deviennent riches ou qu'ils soient riches dans la parole? Il faut que nous prenions au sérieux les choses de Dieu. Si nous voulons que Dieu, on peut dire, agit dans les vies de nos enfants, et que nos enfants prennent au sérieux ce que dit la parole. J'ai un frère, et mon frère, Malheureusement, il ne marche pas avec. Parce que le Seigneur, vraiment, si sa femme va aller à l'église, il va y aller, peut-être. Mais mon frère, il aime NASCAR. NASCAR. Course de voiture. En Amérique. Vous ne connaissez pas NASCAR? Heureusement pour vous. Mais chaque fois que je vais chez mon frère, j'ai droit, si je reste quelques jours, j'ai une séance, on m'assoit devant son télé et voilà. Je ne vois rien d'intéressant dans les dents. Mais oui, tu vois, il va te dire quel malheur, une façon. Et c'est quelque chose. Ses enfants aiment NASCAR. Et quand ils font une sortie en famille, ils vont aller peut-être une ou deux fois par an à une course de NASCAR. C'est une genre de course de voiture. Des voitures comme les. Moi, mon frère, je veux dire, chez lui, il achète des maquettes de voitures de course NASCAR. Et son fait, eux, sont bien faits. Et il m'a dit, celui-là, ça vaut $500. Ce qui est important pour mon frère est important pour ses enfants. Abraham, d'obéir à Dieu, est important pour lui. Et si vous voulez que d'obéir à Dieu soit important pour son fils, il fallait que ce soit important pour lui. Puis verset 4 à 5, le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit de loin, le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, reste ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Maintenant, Abraham, bien sûr, il voyait la montagne de loin, mais je voudrais aller un peu plus loin. Je pense qu'il voyait plus loin que simplement la montagne. Il voyait les leçons que Dieu voulait enseigner. Il voyait l'importance de ce que Dieu voulait faire. Il savait que Dieu avait promis que son fils, il allait avoir quoi? Ce fils-là, une grande postérité. Et quand on cherche un Hébreu, chapitre 11, gardez-moi droit à Genèse 22, et voyons Hébreu chapitre 11. Quelques-uns ont cité ce passage aussi dans le cours de la semaine. Mais Hébreu chapitre 11 et verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Autrement dit, Genèse chapitre 22 dit qu'Abraham est vu de loin. Abraham savait que son fils Isaac, c'était par lui la promesse de Dieu, et il croyait que son fils devait avoir des fils et des filles et des enfants, et qu'ils allaient avoir des fils et des fils et sa postérité allait exploser par ce fils-là, être aussi nombreux que les étoiles. Donc, Abraham dit, maintenant, je ne comprends pas. Dieu m'a dit d'aller là-bas et de tuer ce fils-là. Et si Dieu m'a donné des promesses, et j'ai dû attendre 25 ans pour avoir ce garçon, si j'ai dû attendre pour avoir ce garçon, c'est que Dieu, même si je le tue, Dieu va le ressusciter parce que c'est pas lui, mais je vais avoir ma postérité. Donc, Abraham, en voyant plus loin, il voyait l'importance d'obéir à son Dieu. Et que son Dieu allait d'une façon ou d'une autre résoudre le problème. C'était une énigme pour lui. Puis, je le verset 6, Abraham verset 6, Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils, et porta dans sa main le feu et le couteau. Mais sûrement, c'était un récipient dans lequel il y avait le feu qui transportait. À l'époque, il n'y avait pas de briquets ni des allumettes. Et quand ils ont commencé un feu, ils l'enfoutonnaient, parce que pour redémarrer un feu, donc il avait sûrement un récipient dans lequel il avait les charbons, les braises, en train de brûler, qui l'amène avec lui. Répétition, le bois. Le bois, c'est ce sur lequel il allait construire l'autel. C'est construire l'autel. Oui, Abraham, je suis sûr qu'il voulait construire pour son Dieu dans la vie de son fils. Il prend aussi le feu de la vie, qui est souvent image de jugement ou de purification. Et aussi cette idée que quand il y avait le feu de l'encens qui brûlait, il y avait une image de la prière qui montait vers Dieu. Le feu était essentiel et aussi question du Saint-Esprit dans certains passages. Mais le feu qui, on peut dire, allait rendre son sacrifice agréable à Dieu. Parce que c'est le feu qui faisait monter et ça faisait un odeur agréable à Dieu. Et puis le couteau à la main. Ce couteau me fait penser à l'épée d'esprit. Et c'était et ce couteau qui allait donner la mort à son fils. C'est cet instrument-là que allait montrer la foi d'Abraham. Donc, Abraham, le père, il amène son fils Isaac pour adorer l'Éternel. Ils ont le bois, ils ont le feu, ils ont le couteau. Puis verset 7 et 8, ça me fait penser de ce culte de famille que nous avons posé, parce qu'après il y a un peu les partages et tout ça, verset 7. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils !» Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Donc là, Abraham utilisait ce moment de culte, d'aller, le culte de famille, avec son fils, qu'ils allaient adorer ensemble, pour entraîner son fils. Quand vous faites votre culte de famille, c'est une opportunité en or pour enseigner à vos enfants les principes de la Bible. Ici, Abraham, il a enseigné le principe que Dieu pourvoira. Et un peu plus loin, il dit, le Dieu s'appelle Yahvé Jéré, l'Éternel pourvoira. Abraham, disons, je suis sûr qu'il a été sûr que Dieu allait faire quelque chose. Mais jusque-là, il ne voyait pas comment Dieu allait pouvoir. Il ne savait pas quel était le moyen. Mais il avait confiance. Mais il utilisait cette opportunité de culte entre père et fils pour enseigner la parole et il enseigne quelque chose sur Dieu. Et quand vous faites votre culte de famille, vous allez avoir l'opportunité de répondre aux questions de vos enfants. Oh, des fois, ils vont vous poser des questions et vous ne saurez pas exactement la réponse. Et je vous dis que quand vos enfants vous posent une question et vous ne connaissez pas la réponse, n'inventez pas une réponse. Ça, c'est une plus grande erreur. Parce que vos enfants, ils savent très bien quand vous bluffez. Si vous ne savez pas, dites, je ne sais pas. On va chercher, on essaie de comprendre. Et des fois, mais soyez honnête avec vos enfants. Oui, je ne sais pas. Et la plupart des questions, vos enfants vont aller vous poser, vous allez connaître la réponse, ou savoir, et puis vous cherchez d'autres versets bibliques, je vous dis, oui, ici, la Bible dit ceci, la Bible dit cela. Et c'est une opportunité en or pour enseigner à vos enfants. Donc, Abraham, il croyait à que son Dieu allait pouvoir, et il a enseigné ça. Puis verset 9 et 10, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac, et le vit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Oui, quand je lis ce passage, méditer un peu là-dessus. Oui, Abraham allait faire un grand sacrifice. Isaac aussi. Il allait être égorgé. À ce moment-là, je ne sais pas si j'aurais préféré être Abraham ou Isaac. Je ne sais pas. Parce que dans ce passage, Abraham, il est prêt à payer le prix suprême pour l'obéissance de son Dieu. Abraham, je suis sûr que c'était un moment difficile. Il savait ce qu'il devait faire. Isaac, à ce moment-là, a su ce que son papa allait faire. Mais dans le passage, nous voyons que Abraham a mis Dieu avant son fils. Dieu était plus important à ce moment-là que son fils. Dans notre culte de famille, est-ce que nous mettons Dieu comme étant la chose la plus importante? Quelles sont les choses qui peuvent nous empêcher d'avoir un culte de famille? On en parlait là tout à l'heure, mais on n'a pas le temps, on n'a pas l'idée, on a telle émission à la télé. Le message de Sam prenez au cœur, et je suis content, Thiago, il est informé. Avant de partir, il a mis son télé dans le grenier, et c'est bien. Ce n'est rien devant Dieu. Rien n'est plus important que Dieu. Rien. Rien de tout. Et si pour nous Dieu et d'obéir à Dieu est important pour nous, ça serait important pour nos enfants. Et puis, verset 11, alors l'ange d'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que Dieu n'a pas refusé ton fils, ton unique. Abraham lève les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel. Il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Je suis sûr que cet événement a marqué le reste des jours d'Abraham et d'Isaac. Ce moment de culte a sûrement laissé une marque indélébile dans le cœur de ces deux hommes. Notre culte de famille doit laisser des marques indélébiles dans le cœur de nos enfants. Peut-être, quand vous faites votre petite histoire de la Bible avec vos enfants, ça ne vous semble pas important. Et c'est très important. C'est essentiel. Verset 15 et 18, je vais parler hier, vous l'avez vu tout à l'heure, dans le moment de culte. Mais dans ce passage, Dieu ouvre les bénédictions pour Abraham pour sa postérité, parce qu'Abraham a offert son fils unique, image parfaite de Dieu le Père, qui n'a pas épargné son fils à lui, son fils unique, pour notre salut éternel. Oui, le culte de famille, c'est quelque chose, on peut dire, essentiel, important. Si nous voulons laisser à nos enfants l'héritage spirituel, ça se construit dès le plus jeune âge. Hier, le gérant du château nous a raconté de qu'un jour il y avait cet homme qui a gaspillé son héritage. Ne gaspillons pas notre héritage spirituel. Passons-le à nos enfants. Et que nos enfants, à leur tour, le passent à leurs enfants. Et que chaque génération, parce que vous savez, la fidélité à Dieu, c'est une génération à la fois. Et nous avons besoin d'être les hommes, les parents, qui prennent au sérieux, comme Abraham a pris au sérieux la parole de son Dieu. Notre Père, nous venons à toi là, ce matin, en te demandant de veiller sur les familles encore, pour que ces familles soient centrées sur toi, centrées sur Christ, et que le grand héritage que nous avons reçu de ta parole, que nous passons cela à nos enfants, et que eux à leur tour vont aller encore plus loin que nous. Merci notre Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.